Le temps de lire. Chaque mois, retrouvez les coups de cœur littéraires d'Anne-Françoise. Le temps de lire. Présenté par Anne-Françoise Rocchitelli.
Chaque fois qu'il pense à ce jour-là, maintenant, il imagine à quel point les choses auraient pu tourner différemment s'il avait marché à la droite de Bobby et non pas à sa gauche. En le poussant, il l'aurait fait sortir de la route au lieu de l'envoyer au milieu de la chaussée. Et l'histoire se serait arrêtée là parce qu'il n'y aurait pas eu d'histoire. Toute l'affaire se serait soldée par moins que rien, un bref éclat oublié en un rien de temps. Mais sans raison spéciale, ils avaient formé ce tandem particulier gauche-droite. Lui à l'intérieur et Bobby à l'extérieur, suivant le bas-côté de la route vers la circulation venant en sens inverse, laquelle était nulle. En 10 minutes, pas une voiture, pas un camion, ni une moto ne passèrent. Et après avoir engueulé Bobby sans interruption pendant ces mêmes 10 minutes, l'indifférence goguenarde de son demi-frère vis-à-vis de leur situation se transforma lentement en irritation, puis en franche hostilité, et environ 3 kilomètres après leur point de départ, les deux s'époumonnaient à crier l'un sur l'autre.
La voix d'Anne-Françoise de retour pour Un temps de lire, la 8e émission. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour.
Cette semaine, tu nous présentes Paul Auster, Sunset Park, aux éditions Babel.
Voilà, c'est pas du tout le livre que j'avais prévu de présenter, comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait.
Faut laisser des places à l'imprévu, parfois.
Voilà, c'est ça, je l'ai trouvé dans une étagère chez mes parents le week-end dernier, et je l'ai dévoré. Bon, j'aime beaucoup, beaucoup Paul Auster, c'est un des plus... Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais quand même pour moi c'est quasiment le plus grand écrivain américain, qui est né en 1947 à Brooklyn, pour préciser un petit peu les choses. Et alors ce passage que je viens de lire, c'est vraiment... l'essence même de Paul Auster et de ses livres. Parce que Paul Auster, en fait, c'est un peu... Il y a deux sortes d'écrivains. Enfin, il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y en a deux. Il y a ceux qui inventent des histoires différentes à chaque fois, des fois tellement différentes qu'on ne les reconnaît pas. Et il y a ceux qui racontent un peu tout le temps la même histoire sous une forme différente, mais où, en tout cas, on les reconnaît. Et Paul Auster est de ceux-là. Et une des... Comment dire? Je pense une des préoccupations, un des questionnements fondamentaux de Paul Auster, c'est en fait toutes les choses dans la vie, ce qui nous détermine dans la vie, ce qui détermine notre existence, le chemin en fait qu'on parcourt dans la vie, et ce qui fait que justement à un moment on a marché à droite au lieu de marcher à gauche, et toute la vie a changé. C'est comme le film Smoking No Smoking. Si à ce moment-là en tout cas c'est ce qu'on se dit. Après, est-ce que c'est vrai? On serait peut-être arrivé au même endroit, mais pas tout à fait de la même façon et pas tout à fait la même personne. Et il y aurait eu forcément des conséquences en route. Dans un de ses livres, je crois que c'est le dernier, qui s'appelle 5, 4, 3, 2, 1, où vraiment il met en scène ce truc de la vie aurait pu être comme ci ou comme ça. Et donc il change, il y a 4 histoires parallèles. En fait, il raconte une petite histoire qui dit que... quand on va quelque part, on peut soit choisir l'autoroute, soit choisir la petite route. Et on peut arriver au même endroit, on peut y arriver même des fois en même temps, parce qu'en fait, il y a des tas de choses qui peuvent arriver en cours de route. Mais forcément, ce sera différent.
Ouais, finalement, l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage, si on peut dire.
Oui, c'est ça, et c'est les choix. C'est quand même l'idée des choix qu'on fait dans la vie et qui finalement nous mènent à chaque instant de la vie, pratiquement, on doit faire des choix, plus ou moins conscients, parce qu'il y a des choses où on a besoin de réfléchir, de se poser des questions, et puis voilà, à un moment, on se décide. Il y a des choix qu'on fait sur un coup de tête, on va dire. Mais des fois, on a l'impression que c'est sur un coup de tête, puis en fait, c'est... ça a été réfléchi inconsciemment avant. Voilà, ça a été pensé avant. Et puis, il y a des choses qu'on fait réellement sans réfléchir. C'est-à-dire que tout d'un coup, on traverse la route où on frappe à une porte, où on prend son téléphone et on appelle. Enfin, voilà. Et à partir de là, ben, la vie est différente.
Oui, donc finalement, c'est vraiment un livre de chemin, de rencontre, peut-être. Il parle d'un personnage en particulier qui a l'air d'être... un ami du narrateur, un certain Bobby.
C'est ça. Alors en fait, Bobby, finalement, c'est un personnage qui disparaît dans le livre très rapidement. justement. Enfin, justement. Le personnage principal, le narrateur principal, c'est un roman choral. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages autour du narrateur. C'est pas toujours lui, le narrateur. Et personnage principal qui s'appelle Miles. Miles et Bobby étaient demi-frères.
D'accord.
C'est-à-dire que leurs deux parents, enfin demi-frères, même pas exactement, ils n'avaient pas du tout les mêmes parents, oui, ni père ni mère.
Frères par alliance.
Voilà, exactement. Leurs parents se sont mariés ensemble, mais ils ont vécu ensemble depuis l'âge de 2 ans, quelque chose comme ça. Donc ils ont toujours vécu ensemble et ils ne se sont jamais entendus. Ils étaient très différents, ils ne se sont jamais entendus. Et un jour, Bobby disparaît de la... Donc, je ne raconterai pas exactement pourquoi, on a un tout petit peu imaginé hein, en fonction de l'extrait que j'ai lu. Bobby disparaît et en fait, Miles se sent... Il parle aussi extrêmement souvent de la culpabilité, de la responsabilité, de la culpabilité, Paul Auster. Et donc, toute cette histoire, tout ce livre tourne autour du sentiment de culpabilité de Miles par rapport à la mort de Bobby, qui en fait est un hasard, objectivement. Mais lui, il se dit qu'effectivement, s'il avait marché à gauche au lieu d'à droite, eh ben, ça ne serait pas arrivé. Sauf que dans la réalité, Bobby aurait pu sauter de l'autre côté ou n'importe quoi, et puis ça ne serait pas arrivé non plus. Et donc Miles, pour raconter l'essentiel de l'histoire, hein, Miles en fait est tellement, quand ça arrive il a 20 ans ou quelque chose comme ça, ouais à peu près, et il est étudiant, et en fait il se sent tellement incapable en fait d'affronter cette chose, parce qu'en fait la deuxième chose c'est que pendant tout le livre qui dure jusqu'à ses 28-29 ans, en fait, pour ses parents, en fait, Bobby s'est fait écraser par une voiture, mais ça n'a rien à voir avec Miles. Enfin, ils étaient juste ensemble. Jamais il a raconté à ses parents comment ça s'était passé réellement, et jamais il leur a parlé de son sentiment, donc à son père et à sa belle-mère, de son sentiment de culpabilité. Et donc, il est incapable de les affronter à partir de là, et donc il choisit de disparaître. Alors aux États-Unis, c'est assez facile de... Enfin, on verra que c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, il croit avoir disparu, mais finalement, il y a quelqu'un qui va rester sur sa trace. Et donc, en tout cas, il part, et il mène une vie... Enfin, il abandonne tout, ses études, ses parents, sa ville, il part à l'autre bout des États-Unis, et à partir de là, il va devenir, après avoir fait tout un tas de métiers, il va devenir... comment on appelle ça ? Pas exactement déménageur, mais plutôt nettoyeur. Enfin, il va travailler dans une entreprise de nettoyage de maisons abandonnées. Et alors, lui, il a un hobby un peu particulier, c'est que, contrairement à ses collègues qui en fait, n'hésitent pas à prendre tout ce qui peut se trouver, alors qu'ils n'ont absolument pas le droit de le faire, normalement, toutes les choses que les gens ont abandonnées dans leur maison et qui sont des choses de valeur, lui, il ne le fait pas. Enfin, il respecte sa propre déontologie. Et par contre, il prend des photos des objets abandonnés, comme ça, parce que c'est un peu la mémoire des choses.
Un livre qui parle donc beaucoup de disparition, finalement, entre la disparition de Bobby, la disparition des habitants, des maisons qui partent en laissant leurs affaires qu'il faut nettoyer.
C'est vrai que, quand j'y réfléchis, j'ai pas lu tous les livres de Paul Auster, mais en fait, les histoires qu'il raconte, hein, parce que c'est vraiment un raconteur d'histoires, qui partent dans tous les sens. Il a une écriture à la fois très fluide, très élégante, très très agréable à lire, et en même temps, il y a toujours des tas de digressions et de personnages différents, et donc ça part toujours un peu dans tous les sens, et il y a toujours plein d'histoires à l'intérieur de l'histoire. Mais effectivement, dans ces livres, il y a toujours beaucoup de disparitions, de gens qui partent, qui meurent, des disparitions, comment dire, qui font partie de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que la mort... est une option, enfin je veux dire, elle fait partie de la vie réellement, mais souvent on n'en parle pas tant que ça, et en fait lui il l'inclut vraiment dans ses romans, dans ses intrigues, et pratiquement tout le temps il y a des personnages qui disparaissent en fait, et c'est très très frustrant pour le lecteur, parce qu'on s'attache, enfin il a le don de nous faire s'attacher au personnage, et tout d'un coup un personnage qui paraissait crucial, important dans l'histoire, paf, il arrive un truc, et puis alors c'est sans prévenir, et voilà, il disparaît, il n'est plus là.
Mais est-ce qu'il disparaisse complètement ? Parce que finalement ce qu'on a compris à travers la culpabilité, le machin, c'est que Bobby n'a pas vraiment disparu, en tout cas pas dans le... le cœur de son demi-frère.
Oui, tout à fait. Il est mort, hein, pour être clair. Mais il n'a pas disparu dans le cœur de ses parents, y compris son beau-père, parce qu'il l'a élevé depuis le début et son vrai père était mort. Il n'a surtout pas disparu dans le cœur de sa mère, bon, qui est un personnage secondaire dans cette histoire, mais quand même. Et il n'a effectivement pas du tout disparu dans le cœur et l'âme et l'esprit de Miles, qui lui continue à conserver cette culpabilité et va mettre donc les 8 ans à peu près sur lesquels se passe le livre pour arriver à se pardonner, à peu près se pardonner à lui-même et être pardonné par son père, pas tout à fait encore par sa belle-mère, mais ça parle aussi beaucoup du pardon.
Du deuil en fait finalement.
Oui, du deuil. Du pardon, des relations, Paul Auster en fait s'intéresse principalement à ce qui nous construit. Mmh, mmh. Donc les choix qu'on fait, les personnages avec qui on vit, la famille, les amis, les amours, les relations, les interrelations finalement entre tous les personnages. Même Miles qui vit seul, on va vite voir qu'il n'est pas si seul que ça, parce qu'il va rencontrer quand même une jeune fille qui s'appelle Pilar, et puis après il va retrouver un ancien ami, grâce à qui il va finalement, de fil en aiguille, retrouver ses parents. Ce qui est quand même que j'aime bien, moi, chez Paul Auster, c'est qu'on peut dire, même s'il y a des... il se passe souvent des choses dramatiques et graves dans ses romans, que globalement, ça finit bien. Il y a une espèce de... comment dire, c'est... tout n'est jamais résolu à la fin du livre. Hein. Il reste des...
un soulagement, peut-être.
Oui, et puis... mais je veux dire, il y a une espèce de... je ne sais pas si on peut appeler ça de l'optimisme ou une confiance dans la vie, dans l'être humain, qui fait que finalement, à la fin de ces romans, même si il y a des gens qui ont disparu, il y a des gens qui ont commis des choses pas... mais justement, il y a ce côté retrouvailles, pardon... Qu'on finit toujours par indulgence, et puis je crois qu'on peut appeler ça l'amour, tout simplement, qu'il soit l'amour des parents pour leurs enfants et réciproquement, ou des maris pour leurs femmes, qui est réciproquement aussi des amis entre eux, qui fait qu'à un moment ou un autre, on finit par un peu mettre de côté tout ce qui a séparé. Et je pense qu'il a une espèce de foi en ça, en fait, en la capacité des êtres humains à un moment oublier, pas oublier, hein, mais justement réfléchir, parler, se pardonner mutuellement et rattraper un peu le temps perdu aussi, finalement. Il n'est jamais trop tard, parce qu'à la fin du livre, Miles, il a 28 ans, mais son père, il en a 70 et quelques. Et en fait, il y a encore des choses à pardonner, mais finalement, on peut y arriver. Et je pense que pour lui, c'est un peu ça l'essentiel, d'arriver à pardonner les choses difficiles.
Et on peut le rapprocher à ce que tu disais au début. Les chemins sont différents, mais à la fin, on arrive à se réunir au même endroit.
Alors, je voulais lire un petit passage.
Allons-y, t'écoute.
Alors, je voudrais juste préciser que Paul Auster parle de tous les aspects de la vie. Dans les aspects de la vie, il y a l'amour. Et dans l'amour, il y a le sexe. Donc, c'est un livre qui est pour tout public. Donc, je me suis dit que je pouvais très bien lire ce petit passage. S'il y a des enfants dans les parages, vous changez de pièce ou vous les mettez dans la pièce à côté. C'est pas non plus un livre pornographique, hein. Mais voilà, je trouvais que c'était amusant de lire ce petit passage. Donc, je précise que Miles a rencontré une jeune fille qui s'appelle Pilar et qui, malheureusement pour lui, parce que c'est aux États-Unis, a 17 ans et lui, il en a 28. Et aux États-Unis, ce genre de choses ne pardonne pas. Ça va l'obliger à pas mal de... et ça va expliquer pas mal de choses qui se passent dans le livre. La première fois qu'ils ont couché ensemble, elle lui a assuré qu'elle n'était plus vierge. Il l'a cru sur parole. Mais quand est arrivé le moment où il allait la pénétrer, elle l'a repoussé et lui a dit qu'il ne devait pas faire ça. Le trou à maman était défendu, lui a-t-elle dit. Totalement interdit aux membres virils. La langue et les doigts étaient acceptables, mais pas le membre. À aucune condition, à aucun moment, jamais. Il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Ne portait-il pas un préservatif? Ils étaient protégés, et il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour quoi que ce soit. Ah, avait-elle répondu. C'était là qu'il se trompait. Teresa et son mari avaient toujours cru aux capotes eux aussi. Et regarde ce qui leur est arrivé. Rien n'effrayait davantage Pilar que l'idée de tomber enceinte. Et jamais elle ne mettrait son destin en péril en le confiant à l'un de ces préservatifs douteux. Elle préférait se tailler des veines ou sauter d'un pont que se retrouver enceinte. Est-ce qu'il comprenait ça? Oui, il le comprenait. Mais que faire alors? Le trou rigolo, dit-elle. C'est Angela qui lui en avait parlé. Il dut admettre que d'un point de vue strictement biologique, c'était la forme de contraception la plus sûre au monde. Voilà. Et alors, voilà.
Bon, c'était gentil.
Oui, voilà. Et puis en plus, on n'est pas obligé de comprendre quand on est petit. C'est intéressant parce que ça montre aussi cette relation qui va en fait entamer le chemin de la reconstruction de Miles, cette rencontre avec Pilar qui est, on va dire, une gamine de 17 ans qui vient d'une famille donc hispanique, mm-hmm. avec ses trois sœurs qui, elles, font des petits boulots à droite à gauche et ont des maris ou des copains plus ou moins, intéressants. Et elle, en fait, elle est au lycée, elle est surdouée, elle est cultivée, elle veut absolument faire des études et puis aux États-Unis c'est important, c'est-à-dire aller dans une grande université. Et donc pour elle, c'est plus important que tout. Elle veut absolument pas avoir d'enfants puisqu'elle veut pouvoir faire ça. Et donc, même si elle est amoureuse de Miles et que Miles est profondément amoureux d'elle, il n'est pas question qu'elle cède et qu'elle prenne le moindre risque quant à ça. Donc c'est assez drôle cette histoire, et en plus on se rend compte qu'on est vraiment aux États-Unis parce qu'aujourd'hui on parle de de ce genre de sujet, mais malgré tout c'est quand même pas tout à fait, enfin je sais pas, quelqu'un de 28 ans qui est amoureux de quelqu'un, un homme de 28 ans qui serait amoureux d'une fille de 17 ans, c'est une différence d'âge qui est pas non plus monstrueuse.
Oui, mais qui à cet âge-là reste plus significative qu'un homme de 50 avec une femme de 40.
Tout à fait, mais malgré tout je pense que la plupart des Français considéreraient pas ça comme un crime. Alors qu'aux États-Unis, ça ne pardonne absolument pas. Et donc, Miles se trouve dans une situation vraiment difficile parce qu'en fait, ils choisissent malgré tout d'habiter ensemble avec Pilar, parce que comme ça aussi, elle peut. Elle est dans des conditions beaucoup plus faciles pour travailler et réussir ses études qu'avec ses sœurs. Mais en fait, arrive un moment où sa sœur. Aîné, en fait, fait du chantage à Miles en lui disant que si il continue avec Pilar, en gros, elle va appeler la police et là, ça sera fini pour lui. Mmh. Et c'est à ce moment-là que Miles... Alors Miles est complètement... à ce moment arrive le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il veut absolument pas renoncer à Pilar et elle non plus. Et en même temps, il veut absolument pas qu'il arrive quoi que ce soit qui justement mette en danger leur relation, la mette en danger elle, enfin compromette son avenir, etc. Et donc, il fait le choix à nouveau d'une certaine façon de disparaître, ou en tout cas de partir en disant à Pilar, je pars, je vais à New York, puisqu'il a un ami à New York qui lui a toujours dit qu'il pouvait l'héberger si jamais il y avait besoin. Et en gros, dans 6 mois, tu auras 18 ans et je reviendrai et tout sera possible. Et donc, il part.
Et donc, il part et tu vas nous raconter justement ce départ. Nouvel extrait.
Sans prévenir, le mec fait un léger mouvement de recul et lui lance un coup de poing dans le ventre. Un coup comme un boulet de canon, si colossal par sa force et si dévastateur par son effet qu'il jette Miles à terre. Et tandis que Miles tombe au sol, l'air est chassé de ses poumons. Et avec l'air violemment expulsé par sa trachée, remonte aussi le contenu complet de son estomac, son déjeuner et son petit déjeuner, des particules résiduelles du dîner de la veille. Et tout ce qui, il y a encore un moment, était en lui, se trouve maintenant dehors. Et tant qu'il est allongé là à vomir et à chercher sa respiration en s'agrippant le ventre tellement il a mal, les deux gros durs repartent à pied vers leur voiture, le laissant seul dans la rue comme une bête blessée terrassée par cet unique coup, comme un homme qui a envie d'être mort. Une heure plus tard, Pilar est au courant de tout. Le bluff n'en était pas un, et par conséquent, Miles ne peut plus lui cacher l'affaire. Il se trouve soudain dans une position dangereuse, et il est essentiel qu'elle sache la vérité. D'abord, elle pleure, estimant impossible que sa sœur soit capable d'agir de la sorte, qu'elle puisse menacer Miles de l'envoyer en prison, qu'elle soit prête à détruire son bonheur pour quelques misérables objets. Rien de tout cela n'a de sens pour elle. Ce n'est pas les objets, dit Miles. Les objets ne sont qu'un prétexte. Angela le déteste, elle est contre lui depuis le début. Et le bonheur de Pilar ne représente rien pour elle si ce bonheur est lié à Miles. Il ne comprend pas pourquoi elle éprouve une telle haine, mais c'est comme ça, c'est un fait, et ils n'ont pas le choix, ils doivent l'accepter. Pilar voudrait sauter dans la voiture, rouler jusqu'à la maison et gifler Angela. C'est ce qu'elle mérite, dit-il, mais tu ne peux pas le faire maintenant. Tu dois attendre que je sois parti. C'est une solution horrible, impensable, mais c'est la seule qui leur reste étant donné les circonstances. Il doit quitter l'État. Il n'y a pas d'autre choix possible. Il lui faut avoir quitté la Floride avant qu'Angela ne prenne le téléphone pour appeler la police, et il ne doit pas revenir avant le matin du 23 mai, où Pilar aura 18 ans. Il est tenté de lui demander de l'épouser sur le champ, mais il se passe trop de choses en même temps. Ils sont tous les deux malheureux et à bout de nerfs, et il ne veut pas la mettre sous pression ou l'embrouiller, rendre encore plus complexe une affaire déjà compliquée alors qu'il reste si peu de temps. Il lui dit qu'un de ses amis a une chambre pour lui quelque part à Brooklyn. Il lui donne l'adresse et lui promet de téléphoner tous les jours. Comme il est désormais hors de question pour elle de retourner dans la maison familiale, elle restera dans l'appartement. Il lui fait un chèque qui couvre d'avance 6 mois de loyer, signe sa carte grise pour lui donner sa voiture, puis l'emmène à la banque où il lui montre comment se servir du distributeur de billets. Il a 12 000 dollars sur son compte. Il en retire 3 000 pour lui et laisse les autres 9 000 pour elle. Après avoir glissé la carte de retrait bancaire dans la main de Pilar, il l'entoure de son bras et ils sortent dans le flamboiement d'un soleil de milieu d'après-midi. C'est la première fois qu'il la touche en public. Il le fait consciemment, par défi. Il fourre dans un petit sac assez de vêtements pour se changer 2 fois, son appareil photo et 3 ou 4 livres. Il laisse tout le reste en place, pour que Pilar soit bien persuadée qu'il reviendra. De bonne heure, le lendemain matin, il est assis dans un car, en route pour New York.
Nouvelle fuite, si on peut dire ça comme ça.
Voilà, exactement. Et c'est alors là qu'on arrive, c'est à ce moment-là qu'on arrive dans le titre du livre, ce qui fait le titre du livre, c'est-à-dire Sunset Park. Parce que Sunset Park, c'est un quartier de New York. Et dans ce quartier, il y a donc un quartier de Brooklyn, même pour être plus précise, mais un endroit un peu miteux de Brooklyn, dans lequel il y a une... il se trouve qu'à un endroit, il y a une maison abandonnée. Abandonnée, non seulement abandonnée, mais laissée vraiment à l'abandon, ouais, dégradée.
En état de ruine.
Voilà, c'est ça. Et dans laquelle s'est installé un ancien ami de Miles, qui s'appelle Bing. Enfin, il a un vrai nom, hein, mais... dans le livre, il s'appelle Bing. Je ne me rappelle plus son nom.
Du coup, il est un peu squatteur de cette maison. Abandonnée.
Voilà, qui squatte cette maison avec 2 colocataires. Donc, une qui s'appelle Alice et qui fait une thèse. Enfin, ils se sont rencontrés tous les 3 plus ou moins par hasard. Et l'autre qui s'appelle Hélène et qui dessine mais n'arrive pas à percer. Et en attendant, loue des... enfin, travaille dans une agence immobilière. Et donc, Miles va se réfugier dans cette maison de Sunset Park. Le temps que Pilar ait 18 ans. Et arrivé à New York, et donc dans cette maison où il y a Bing, Hélène et Alice, Miles va devoir apprendre à cohabiter avec ces différentes personnes. Mais on découvre le personnage de Bing, en fait, qui est l'ami. En fait, ils étaient pas... ils se connaissaient, ils étaient amis, comme on peut être amis quand on a 18 ans. Mais Bing, il a toujours été... il a toujours, été solidaire de Miles, quelque part. Et ce que Miles ne sait pas, il y a aussi plein de secrets dans les livres de Paul Auster, c'est que Miles, lui, il a été un peu... Il a compris ou pas, on ne sait pas trop pourquoi Miles est parti, mais en même temps, il comprend aussi la douleur et l'incompréhension de ses parents. Et donc, il s'est occupé pendant tout ce temps, ces 8 ans qui viennent de passer, de pister Miles, de savoir où il était, et de prévenir ses parents au fur et à mesure. Et en fait, Miles croit avoir disparu, c'est ce que je disais au début, mais finalement, il a disparu à ses yeux, à lui, parce que ses parents, son père et sa belle-mère, donc, ont toujours su à chaque étape où il était, ce qu'il faisait. Ils savent qu'il a rencontré Pilar, par exemple, et non seulement ils le savaient, mais son père s'est déplacé 1 ou 2 fois pour aller observer ce qu'il faisait. Il a vu rencontrer Pilar, il a assisté à sa première rencontre avec Pilar sur un banc dans un jardin public. Et donc, d'une certaine façon, ils ne comprennent toujours pas, puisque... il y a toujours ce mystère de l'amour de Bobby, en fait. Il y a quand même ça qui n'a pas été révélé à personne. Mais donc, ils ne comprennent pas pourquoi il est parti. Et sa belle-mère, notamment, lui en veut parce qu'elle a l'impression qu'il les a trahis. On ne sait pas exactement pourquoi. Puis elle, c'est quand même son fils qui est mort, même si elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, arrive le moment un peu de la confrontation parce que Bing, lui, voudrait que Miles rencontre ses parents.
ce que Miles n'a pas forcément l'intention de faire, mais qu'il va finir par faire aussi. Et donc, bah voilà, parce que ce qui est encore plus compliqué, c'est que Miles, il a donc un père, une belle-mère, mais il a aussi une mère qu'il a abandonnée quand il était petit. Autre disparition, autre abandon, qui elle, en fait, était une actrice débutante au départ, mais qui est devenue une actrice de renom, et qui, en fait, n'avait pas du tout envie, comme Pilar, finalement, étrange, d'avoir des enfants, et qui s'est retrouvée avec ce môme sur les bras dont elle ne savait absolument pas quoi faire, et qui, quand il avait à peine 2 ans, ou quelque chose comme ça, est partie avec un autre homme, puis un autre homme, puis un autre homme, et est devenue, en fait, effectivement, une grande actrice. Et à la fin du livre, ça a un petit côté romantique, un peu toutes ces retrouvailles miraculeuses. Mais malgré tout, c'est ce que je disais, voilà, c'est la confiance dans la capacité de l'être humain à recoller les morceaux, en fait, à réparer les choses. Et Miles va effectivement, grâce à Bing, retrouver son père, sa belle-mère qui ne va pas lui pardonner tout de suite, mais ça... Voilà, on peut espérer que ça va venir. Et sa mère qui va être très heureuse de le retrouver. Et lui, il va aussi pardonner à sa mère de l'avoir abandonné quand il était petit. Parce qu'il s'est aussi imaginé des choses sur sa mère qui voulait pas avoir d'enfant, qui s'était retrouvée enceinte quasiment par accident, sans le vouloir, qu'il avait abandonné. Et finalement, tout ça va être pardonné aussi. Et en même temps que tout ça, il y a quand même la rencontre de, puisque c'est un roman choral où il y a beaucoup de personnages, avec les autres colocataires de cette fameuse maison de Sunset Park. Et donc là, je voudrais lire un dernier petit passage sur les deux autres personnages qui sont Alice et Hélène. Parce que Paul Auster a vraiment un don, mais c'est de l'ordre du génie, hein, je trouve, pour faire entrer des personnages secondaires comme ça dans une histoire, et au bout de 5 minutes, c'est comme s'ils y étaient depuis le début.
Oui, c'est que finalement, ils peuvent disparaître d'une page à l'autre, mais aussi apparaître.
Voilà,
d'une
c'est
page
ça.
À l'autre.
Il y en a qui disparaissent et il y en a d'autres qui apparaissent. Et il prend le soin, malgré tout, de raconter l'histoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de digression de ces personnages. Donc, il y a des chapitres, Hélène, Alice, Maurice Heller, Miles Heller, Bing, etc.
Chacun devient peut-être narrateur de son chapitre.
C'est ça. Non, pas narrateur, mais chacun devient le héros, en tout cas, d'un chapitre. Et pendant ce temps-là, on oublie un petit peu les autres. C'est vraiment le propre de ce livre, comme de beaucoup d'autres de ces livres. Elle continue de parler du film pendant quelques minutes de plus. Puis, elle se souvient enfin de demander à Alice ce qui l'a poussée d'abord à venir frapper à sa porte. Pour l'instant, Alice est occupée. Mais elle dit qu'elle sera heureuse de prendre une heure après le déjeuner et de poser pour elle. Ce qu'Alice ne comprend pas, c'est qu'Hélène ne cherche pas à faire le portrait de son visage. Non, ce qui l'intéresse, c'est de dessiner son corps tout entier. Et pas le corps tel qu'il est caché par des vêtements, mais de faire un croquis du corps complètement nu. Ou peut-être plusieurs croquis semblables à ceux qu'elle a réalisés pendant ses cours d'après-modèle à l'école d'art. Elles éprouvent donc toutes deux une certaine gêne au moment où elles montent dans la chambre d'Hélène après déjeuner, quand Hélène demande à Alice d'ôter ses vêtements. Alice n'a jamais travaillé comme modèle. Elle n'a pas l'habitude de voir son corps scruté par qui que ce soit. Et même s'il leur arrive de s'entreapercevoir en sortant de la salle de bain, ça n'a rien à voir avec la torture consistant à devoir rester assise une heure entière, absolument immobile, pendant que ton amie la plus proche t'examine du haut en bas, surtout en ce moment où elle se sent si mal à cause de son poids. Et Hélène a beau dire à Alice qu'elle est belle, qu'elle n'a rien à craindre, que ce n'est qu'un exercice artistique et que les artistes ont l'habitude de regarder le corps des autres. Alice est trop gênée pour accepter la requête de son amie. Elle est désolée, terriblement désolée, mais elle ne peut pas s'y résoudre et doit dire non. Hélène est piquée au vif par le refus d'Alice qui ne veut pas faire pour elle cette chose toute simple qui en fait serait le premier pas pour lui permettre de se réinventer en tant qu'artiste. Ce qui n'est rien de moins que se réinventer en tant que femme, en tant qu'être humain, et même si elle comprend qu'Alice n'a aucune intention de la blesser, elle ne peut s'empêcher de se sentir blessée. Et après avoir demandé à Alice de sortir de la chambre, elle ferme la porte, s'assoit sur le lit et se met à pleurer.
Voilà, un livre qui laisse la part aux relations humaines en général.
Oui, et finalement, c'est marrant parce que là, on arrive au moment où on pourrait penser que l'histoire va se concentrer sur les retrouvailles de Miles avec sa famille. Mmh. Et en fait, il intègre complètement, finalement, les personnages secondaires deviennent aussi importants que... Mmh. Ils ne sont plus du tout secondaires. Et l'histoire d'Hélène et d'Alice, qui n'étaient pas là au début du roman, va finalement prendre autant de place que celle de Miles, de sa mère, parce qu'on va voir qu'il y a aussi l'histoire de son père avec sa belle-mère, il y a une nouvelle péripétie qui va arriver, parce que même à 70 ans, on peut là aussi faire des choix ou avoir des impulsions qui mettent en grand danger la relation avec ses proches. Et donc c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, tous les personnages sont importants. On va découvrir quelque chose par rapport à Bing qui... D'ailleurs, on le découvre, c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on le découvre en même temps que les personnages. Il a le don de nous le faire découvrir en même temps que les personnages. On va découvrir que Bing, finalement, a une relation... La relation de Bing et son... Comment dire... Sa manière, la raison pour laquelle il s'est si attaché à protéger Miles et ses parents, eh bien, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Ça aussi, et c'est de l'ordre aussi du secret, d'une certaine façon, qui va rester secret. Mais voilà, tous les personnages ont une histoire. Paul Auster raconte des histoires, c'est vraiment, c'est pas le cas à ce point-là dans tous les romans, et il nous raconte plusieurs histoires, plein d'histoires dans un seul roman, et pour chaque personnage, il prend le soin de nous raconter son histoire quasiment du début à la fin. Alors sur le moment, on se dit, mince, on était parti dans l'histoire de Miles, mettons, et puis tout d'un coup, il nous parle d'Hélène ou d'Alice, mais en fait, au bout de 3 pages, on est parti dans, ou même de 10 lignes, on est parti dans l'histoire d'Alice et on a envie d'en savoir plus. Et alors, forcément, le propre de ce genre de livre, c'est que à la fois, à la fin, il y a quand même un côté, je dis ça finit bien, c'est-à-dire qu'on sent que quand même les choses vont vers une sorte de résolution, de réparation, d'arrangement, de retrouvailles, etc. Mais il reste encore... C'est comme si on s'arrêtait... un peu au milieu de l'histoire. L'histoire n'est jamais finie, en fait.
Oui, c'est qu'on a observé finalement une tranche de vie et libre à nous peut-être d'imaginer voilà. Tout ce qui n'a pas été dit.
Voilà, parce qu'il finit même pas vraiment... non seulement il finit même pas vraiment, mais il nous relance dans des péripéties nouvelles, je dirais à 5 pages ou 5 lignes. De la fin du livre, ça s'arrête vraiment net et on se dit bah mince alors comme en plus il va un petit peu dans le désordre, il nous donne des explications sur une chose et puis après il revient en arrière et en fait à la fin eh bien je dirais que le livre n'est pas fini.
Malgré tout avec une écriture fluide et cohérente finalement, c'est ce que tu me disais.
Oui, 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 tout à fait, fluide, enfin je sais pas trop quel autre terme employer, mais je trouve une écriture fluide et une écriture élégante, enfin c'est le terme qui me vient, parce que c'est une écriture qui nous, il y a d'autres écrivains qui sont un peu comme ça, qui nous bercent, qui nous emportent, c'est comme une espèce de rivière qui par moments se transforme un peu en torrent et d'autres moments est beaucoup plus calme, hein, mais qui nous emmène une fois qu'on est dedans, on peut pas s'arrêter quoi. Et effectivement très cohérente parce que il est quand même je sais pas trop comment il procède, hein, d'ailleurs, si lui-même il fait un plan de son livre jusqu'à la fin ou s'il se laisse emporter par son imagination, je sais pas, mais c'est très c'est pas difficile à suivre en fait. C'est juste que de temps en temps on en oublie un pour suivre l'autre, mais après quand on revient on reprend le truc voilà, et en 5 minutes on est reparti.
Peut-être également l'occasion du coup de saluer le travail de Pierre Furlan du coup, qui est traducteur de ce livre.
Exactement.
On sait que les livres étrangers ont un travail de traduction, donc c'est le travail de traduction qui, lorsqu'il est bien réalisé, permet de magnifier l'œuvre.
Oui, c'est la question. Enfin, on dit toujours traduction, trahison. Enfin, c'est une question qu'on peut toujours se poser parce que autant au cinéma, on peut quand même entendre les films, même si on ne comprend pas, dans la langue originale. Eh bien, en littérature, on est condamné, je dirais, si on n'est pas assez féru dans les langues étrangères, à lire les livres par le biais de traductions. Et puis, on sait très bien qu'une traduction, enfin...
Il y a plein d'exemples. Soit complètement...
Oui, et puis il y a plein d'exemples qui montrent que malgré tout, une traduction, il n'y a pas qu'une traduction possible. Parce que le travail d'un traducteur, c'est quelque chose d'extrêmement... complexe, et ben, dans toutes les langues, il y a plusieurs mots pour traduire un seul mot.
Oui, et puis d'ailleurs, les exemples, surtout en ce moment, se multiplient pour les retraductions
d'œuvres,
réactualisation peut-être.
Voilà, exactement. Je pense à la Bible parce que c'est l'exemple le plus qu'on connaît le plus, mais il y en a d'autres. Et effectivement, chaque fois que je lis un livre comme ça, je me dis. Alors souvent, c'est le même traducteur qui traduit tous les livres d'un auteur. Et donc, il y a, y a une unité de ton qu'on retrouve, mais c'est vrai que tout le talent du traducteur est de faire ressortir pas seulement la signification, mais de se mettre vraiment dans le ton de l'auteur pour essayer que les lecteurs étrangers ressentent la même chose, je dirais, que les lecteurs américains.
C'est même retranscrire presque la musicalité des phrases.
Exactement, voilà, exactement. Quand on parle d'ailleurs de lecture à haute voix, c'est vraiment ce qu'on ressent. Et c'est vraiment ça, en fait, ce qu'on entend en fait, dans sa tête, quelque part, quand on lit un livre. J'ai parlé de rivière, mais ça me fait penser à une sorte de ruban qui se déroulerait tranquillement jusqu'à la fin. Et voilà, bah, Paul Auster, ça me fait penser à ça. Il y a d'autres auteurs qui ne me feraient pas du tout... pour lesquels j'aurais pas du tout la même image. Donc effectivement les traducteurs ont vraiment un travail, enfin si c'est admirable hein, le travail du traducteur, c'est très long, c'est et puis finalement on peut se dire c'est dommage de pas pouvoir lire dans la langue, mais bon c'est intéressant aussi, je pense, le travail de... Autant le travail des sous-titres, des doublages, je trouve que c'est pas très intéressant. Mais voilà, mais la traduction, c'est une espèce de... Je sais pas comment dire, le traducteur, c'est un peu comme si c'était une sorte d'ombre de l'écrivain, en fait, qui se fond presque dans son écriture pour essayer de la... Voilà, de la traduire, je ne sais pas comment dire autrement, mais de la révéler, de l'exprimer pour des gens qui parlent une autre langue. C'est quand même un métier, je trouve que c'est un métier traducteur littéraire, extrêmement intéressant.
Sunset Park de Paul Auster, on le rappelle donc, traduit de l'américain par Pierre Furlan aux éditions Babel. C'était le livre que tu nous présentes ce mois-ci, Anne-Françoise. Merci.
Merci à Maurice.
Et on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau Temps de lire.
À bientôt.
À bientôt.